Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Ce matin, deux documentaires par exemple, dans des genres totalement différents. Demain est à nous avec des gamins qui veulent changer le monde et un doc sur Eric Clapton. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr, également nous voir sur Europe1.fr. Notre info média, l'opération Chouette pas chouette, opération qui vise à sensibiliser les très jeunes enfants à la lutte contre le sexisme et au respect de la différence avec des dessins animés et un kit pédagogique. Et une fois n'est pas coutume, les 4 plus grands groupes de télé se sont associés à l'opération TF1, France Télévisions, M6 et Canal+. Et une fois n'est pas coutume, nous recevrons 3 intervenants pour en parler. Une figure du journalisme ensuite, Fabienne Pascaud, la directrice de la rédaction de Télérama. Elle est entrée au service cinéma du journal en 1980 et maintenant c'est la bosse. L'hebdomadaire culturel se porte bien, il ne cesse de se diversifier, notamment avec son opération Télérama Dialogue. C'est la 8e édition qui démarre. Enfin, la comédienne Alix Poisson, tête d'affiche de la fiction Disparition inquiétante, c'est ce soir sur France 2. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decaen.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. Maintenant, le sommaire du jour.
L'annonce choc de Canal+, la crise qui s'enlise à l'équipe, l'éviction d'Alain Finkielkraut et l'Eurovision qui se prépare.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
TF1 est en tête et stable sur une semaine avec la suite de la série américaine SWAT à 4 100 000 téléspectateurs et 18% de part d'audience. La chaîne devance France 3, deuxième avec une rediffusion du téléfilm Quelque chose a changé avec Pierre Arditi. Au compteur, 3 700 000 téléspectateurs pour 16,1% de part d'audience. Et c'est M6 qui prend la troisième place avec 2 700 000 téléspectateurs pour la grande finale de Lego Masters. Le concours remonte après sa grosse chute de la semaine dernière à 12,7% de part d'audience et il est aussi leader, comme depuis le début de sa diffusion, sur les femmes, responsable des achats de moins de 50 ans à 26% de part d'audience, soit 3 points de plus que TF1.
Culture Média.
Et on débute ce journal des médias avec l'annonce choc de Canal+.
Le groupe veut rendre ses droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 à la LFP, la Ligue de football professionnel. C'est ce que dit au Figaro le président du directoire du groupe, Maxime Saada. Canal+ souhaite qu'un nouvel appel d'offres soit organisé. Contrairement à ce qu'espérait la LFP, Canal+ ne fera donc pas de proposition écrite pour racheter les droits que Mediapro s'était adjugé à prix d'or en 2018. Suite à un défaut de paiement, Mediapro a rendu ses droits il y a quelques semaines.
Et alors pourquoi Canal+ ne veut pas racheter directement ses droits?
Maxime Saada avance 3 raisons. Une perte de confiance entre Canal+ et les responsables du foot français. Des raisons juridiques, parce qu'un accord de gré à gré sans appel d'offres pourrait être contesté devant un tribunal. Mais aussi une raison économique. Selon lui, le prix de la Ligue s'est déprécié suite au fiasco Mediapro. Mais cette annonce de Canal+ est aussi stratégique, comme l'a expliqué l'économiste du sport Christophe Lepetit à Antoine Janton.
Probablement à mettre tout le monde face à ses responsabilités. Je pense qu'il y a eu des discussions ces dernières semaines. Peut-être que ces discussions, justement, sont arrivées dans une impasse. Et donc, en faisant cela, en sortant du bois, comme l'a fait Maxime Saada dans le Figaro, eh bien, il cherche à mettre tout le monde face à ses responsabilités. La LFP, en lui disant « vous ne voulez pas accepter cette offre que je formule, donc vous pensez que votre produit vaut plus, eh bien, allez consulter le marché pour voir si effectivement votre produit vaut plus. Bein Sport également, puisqu'en fait, Canal+ a un lot de Ligue 1 qu'elle a acquis auprès de Bein Sport. Donc en fait, Canal+, finalement, met fin à cet accord à Bein Sport. Donc en théorie, c'est Bein qui récupère le lot qui était aujourd'hui exploité par Canal. Et puis l'ensemble des autres acteurs du marché qui, s'il y a l'ensemble d'appels d'offres, pourront, s'ils le souhaitent, se positionner sur les droits de la Ligue 1.
Alors, selon le Parisien, aucun diffuseur ne s'est manifesté pour reprendre ses lots. Et une question se pose désormais, si la chaîne Téléfoot ferme comme prévu et que Canal+ rend ses droits, qui va diffuser le championnat jusqu'à la fin de la saison?
Il est assez peu probable d'imaginer Téléfoot diffuser toute la saison sans avoir payé la totalité des montants des droits télé. C'est très compliqué d'y voir clair à ce stade. D'ailleurs, Maxime Saada fait une proposition dans son interview. Il propose à la Ligue de football professionnel de mettre en place une offre OTT, donc pour diffuser les matchs sur Internet, avec une offre universelle qui serait accessible à l'ensemble des Français et pas uniquement aux abonnés Canal, avec un système de paiement au match. Est-ce qu'on va aller vers ça? Ça paraît aussi peu probable, puisque j'imagine peu la LFP confier justement ses droits à Canal+ de la sorte, alors même que Canal la place dans une situation très difficile. La dernière possibilité, ça serait d'imaginer que la LFP continue à assurer une diffusion des matchs via Téléfoot, monte en parallèle sa propre plateforme pour diffuser les rencontres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande pas mal d'investissements techniques et qui prend un peu de temps. Donc ça veut dire qu'on se placerait dans un horizon temporel qui nous amènerait vite à la fin de la saison.
L'économiste du sport, Christophe Lepetit, au micro d'Antoine Janton.
Et j'imagine qu'on va continuer à parler de cette affaire. On reste dans le chapitre des sports. La crise s'enlise au sein du groupe L'Équipe.
Ça fait 5 jours aujourd'hui que Le Quotidien ne paraît pas et le dialogue entre la direction et les salariés semble compliqué. Au cœur des tensions, un plan social qui prévoit la suppression de 50 postes et la création de 15 nouveaux. Intenable pour Denis Pérez, délégué syndical SNJ-CGT.
Avec ce nouveau plan, on nous demande encore une fois de tailler dans les effectifs. Et on nous demande quand même en même temps de relancer le titre, de gagner des abonnés, tout en traitant moins de sport, en traitant moins de clubs, même en foot et en rugby. C'est-à-dire que la polarisation OM-PSG Lyon, rejetée par beaucoup de nos fans, elle risque d'empirer. Donc toutes ces raisons font que des salariés qui sont au bout du rouleau, qui ont tout donné, notamment pendant le confinement, pour essayer de maintenir l'équipe à flot et avec succès, puisque les pertes vont être très modérées, eh bien, on leur dit à la sortie, écoutez, tant pis, quand même, pour maintenir notre compétitivité, soi-disant, eh bien, nous allons supprimer une 60aine de postes, et puis vous allez évidemment donc devoir faire quand même encore plus de choses et gagner des abonnés malgré tout ça.
Alors, de son côté, la direction assure que la survie du groupe à moyen terme est menacée. Le confinement a accéléré une crise structurelle, celle de la baisse des ventes du quotidien papier. Le groupe se donnait 2 ans pour booster considérablement son offre numérique afin de compenser cette baisse, mais il a été pris de court. Aujourd'hui, la direction avance des pertes prévisionnelles qui pourraient atteindre 10 millions d'euros pour 2023 et 2024. Et ce, alors que l'actionnaire a absorbé la facture liée au Covid et à la faillite de Presstalis. Mais ce tableau très sombre ne convainc pas les syndicats.
L'équipe appartient au groupe Amaury. C'est un groupe qui a encore gagné de l'argent en 2020, malgré la pandémie. La société qui édite l'équipe a eu un résultat opérationnel positif en 2019, en 2018, en 2017. Ça veut dire que son activité est profitable. Et évidemment, en 2020, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été beaucoup moins compliqué que ce qu'avait essayé de nous faire croire le patron au sortir du confinement, Jean-Louis Pellet. Et en fait, on va perdre quelques millions d'euros, certes, mais ça paraît quand même un moindre mal par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020. Et souvenez-vous notamment du premier confinement et de l'arrêt total du sport.
Denis Pérez, délégué syndical SNJ-CGT, au micro de Louise Bernard.
Alain Finkielkraut n'interviendra plus sur LCI.
La chaîne info du groupe TF1 a annoncé qu'elle n'inviterait plus le philosophe à débattre dans l'émission 24 heures Pujadas, à laquelle il participait régulièrement depuis la rentrée. Dimanche, alors qu'il évoquait à l'antenne les accusations d'inceste à l'encontre du politologue Olivier Duhamel, Alain Finkielkraut s'est interrogé sur le possible consentement de la victime présumée d'Olivier Duhamel, une victime âgée de 14 ans au moment des faits. David Pujadas a immédiatement rappelé son interlocuteur à l'ordre, mais le philosophe a insisté, inadmissible, aux yeux du groupe TF1 qui a décidé de mettre un terme à leur collaboration.
Et cette éviction a mis le philosophe en colère.
Oui, il la juge, injuste, il s'estime bâillonné par LCI. Interrogé par Le Parisien, Alain Finkielkraut assure n'avoir jamais à aucun moment été complaisant avec Olivier Duhamel et il affirme qu'il ne changerait rien aux propos qu'il a tenus et il conclut avec cette phrase « Nous vivons dans un monde de délire collectif et j'en suis la victime ». Fin de citation.
Tout à fait autre chose, on connaîtra la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision dans une quinzaine de jours.
C'est le 30 janvier précisément que France 2 proposera son émission Eurovision France, c'est vous qui décidez. En lice, 12 candidats et 12 chansons qui ont déjà été dévoilées sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs et un jury seront chargés de les départager au cours d'un seul et unique prime. L'an dernier, la chaîne, c'est elle toute seule qui avait d'abord choisi une chanson puis lui avait assigné un artiste, en l'occurrence Tom Leb. Mais cette année, le processus est complètement différent, comme l'a expliqué le directeur du casting Vladimir Pandolfo à Louise Bernard.
Le postulat de base était qu'on voulait un artiste qui ait déjà une chanson. L'Eurovision, c'est un moment de live, donc c'est un instant. Et il faut avoir un interprète et une chanson, d'abord qui soit mémorable, mais qui puisse justement créer un instant de communion. On a reçu donc près de 700 chansons. L'idée, c'était de dire, il faut que chaque artiste puisse avoir un univers qui lui est propre. Donc c'est pour ça que je suis fier d'avoir un casting très diversifié.
Eurovision France, c'est vous qui décidez, présenté par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, c'est samedi 30 janvier en prime sur France 2.
Beaucoup moins joyeux, 1,5 million de personnes sont privées de télévision et de radio en Haute-Vienne.
Un incendie s'est déclaré lundi soir et a causé des dégâts importants à l'émetteur de télédiffusion situé dans la commune des Cars. L'incendie a été revendiqué auprès d'un journal local par un groupe qui s'est présenté comme le comité d'abolition de la 5G et son monde. Il s'agit du deuxième incendie de ce type en quelques mois. En novembre dernier, c'est près de Marseille qu'un site de télédiffusion avait été touché, privant plus de 3,5 millions de personnes de télé et de radio pendant plusieurs jours.
Ils ne verront pas Alice Nevers et de toute façon, Alice Nevers, c'est fini.
Et oui, la série policière de TF1 avec Marine Delterme ne reviendra pas pour une 19e saison, annonce Allociné, en cause des audiences trop faibles sur la cible fétiche de TF1, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.
Merci Charles Decan, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre infomédia du jour, pardon, une opération pour sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre le sexisme à travers des dessins animés. Elle est suivie par 4 des plus grands groupes de télévision. Une fois n'est pas coutume, nous serons avec 3 invités dans des genres très différents. Coralie Boitrel-Lègle, elle est directrice des programmes jeunesse du groupe M6. Estelle Collat, elle est directrice des grandes causes chez Mec.org. Et Damien Giard, il est directeur du numérique chez Bayer Presse. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est suffisamment rare pour être souligné. Les 4 plus grands groupes de télévision, à savoir TF1, France Télé, M6 et Canal+, s'unissent pour promouvoir, dès le plus jeune âge, l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec eux également, d'autres diffuseurs de programmes jeunesse comme Disney, Nickelodeon et Bayard. Ils vont tous diffuser, à partir d'aujourd'hui, une série de dessins animés « Chouette, pas chouette », c'est le titre, qui déconstruit cette série, les stéréotypes du genre. Exemple, une fille, ça peut pas devenir pilote d'avion, ou alors un garçon, ça ne peut pas pleurer. Le principe est de confronter les très jeunes enfants, s'ils existent déjà, à ces stéréotypes sexistes pour les pousser à remettre en cause leurs préjugés et comprendre que naître fille ou garçon ne détermine pas ce que sera sa vie. Pour en parler, une fois n'est pas coutume non plus, 3 invités ce matin. Coralie Boitrel-Lègle, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être là. Vous êtes la directrice des programmes jeunesse du groupe M6. Damien Giard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du numérique au sein du groupe Bayer Presse. Et puis Estelle Collat, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour la société qui a coordonné, piloté cette opération, Mec.org. Vous êtes la directrice des grandes causes de Mec.org. Et la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes est une grande cause. Estelle Collat, comment est née cette opération Chouette, pas chouette? De quoi c'est parti?
Alors, c'est parti en novembre 2017 par une grande consultation citoyenne qui a réuni 400 000 participants. Et pendant cette consultation, on a vu émerger différentes idées, dont une proposition de Ange que je vous cite, qui est « Il faut que l'on apprenne aux enfants le respect de l'autre sexe, filles et garçons, les faire débattre sur le sujet ». Et en fait, ça a été à l'origine du projet. Derrière, on a bâti des ateliers tous ensemble et on a abouti à cette série de dessins animés.
Vous faites un geste en désignant Coralie Boitrel-Lègle en disant tous ensemble. Justement, comment le groupe M6 et les autres groupes de télévision, Coralie Boitrel-Lègle, se sont retrouvés dans cette opération? Qui vous a contacté? Comment ça s'est passé?
Alors c'est Dominique Poussier qui est une grande dame des médias, enfin de l'audiovisuel en général, qui connaît très bien la petite enfance, qui nous a contactés. Et grâce à son expérience et tout son charisme...
Dominique Poussier qui était l'ancienne directrice des programmes jeunesse du groupe TF1.
Absolument. Et grâce à son charisme, elle a réussi à nous mettre tous autour de la table, mais de manière assez simple en fait.
Idem, pardonnez-moi, je vous interromps, Damien Giard, c'est le même scénario pour Bayer Presse.
Nous, on a été contactés a posteriori. La série avait déjà été lancée. Et nous, en tant que diffuseurs de la série et puis aussi promoteurs, parce qu'on va le promouvoir dans nos magazines, on en parlera.
Exactement, on va en parler. Estelle Collat, c'est très rare, pour ne pas dire unique. Moi, j'ai que le souvenir du site Action, de voir tous les grands diffuseurs réunis autour d'un même projet. Comment les avez-vous convaincus?
Eh bien, cette union sacrée, effectivement, est assez exceptionnelle. Et un peu, c'est vrai que c'est la magie du principe de Make. C'est-à-dire que Make.org crée des coalitions de très grande ampleur en réunissant aussi bien des entreprises, des associations, des médias. Et là, ben, très concrètement, on s'est dit, ça ne peut marcher et on veut un impact décisif. Donc, il nous les faut tous. Et c'est pour ça qu'on
est... Ça, j'ai bien compris. Mais ma question était, comment vous faites pour qu'ils vous disent oui? Parce qu'en général, quand on veut les réunir, ils disent, c'est une super idée, mais finalement... Il y a toujours une bonne raison pour que ça ne se fasse pas. Comment les avez-vous convaincus?
Là, en fait, le fait que ce soit à l'origine une demande des citoyens, c'est quand même quelque chose de très nouveau, que ce soit vraiment basé sur la volonté des citoyens. Et puis après, ben, on est allé voir Dominique. Et Dominique nous a aidés, évidemment, parce qu'elle les connaît tous et qu'elle a mis son charisme et son poids dans la balance.
C'est difficile, Coralie Boitrel-Lec. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'espace jeunesse d'M6, du département jeunesse, des programmes jeunesse, voilà le mot qui me manquait. C'est difficile de travailler avec les concurrents ou ça se passe très bien?
Ça se passe très bien. Sur un sujet comme celui-là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Ça se passe bien. Nous, on est depuis toujours très investis par, et je pense que c'est le cas de mes confrères aussi, mais par la responsabilité qu'on a envers les enfants et leurs familles. Et voilà, Gulli, c'est 1 million d'enfants chaque jour devant la télé. Donc, dès qu'on a cette responsabilité-là en tête, alors tout se passe bien.
Gulli qui appartient au groupe M6. Alors, les dessins animés, on y vient. Ils sont destinés à des enfants âgés de 4 à 6 ans. Ils sont courts, 1 minute 30 avec le générique. Des dessins très lisibles, colorés. Il y a 16 épisodes avec à chaque fois un thème différent, un a priori différent. Par exemple, le foot, c'est pour les garçons, la danse, c'est pour les filles. En revanche, dans chaque épisode, structure identique en 3 parties, on va les détailler. Première partie, la scène d'exposition qui permet de montrer un stéréotype du genre. Là, il y a 2 personnages. Une petite fille, elle s'appelle Kiki. Un garçon, il s'appelle Wawa. Et le garçon, il a un t-shirt rose.
Mais Wawa, le rose, ce n'est pas pour les garçons.
Ben quoi, Kiki? J'adore le rose. C'est ma couleur préférée.
Mais non, tu ne peux pas aimer le rose. Le rose, c'est pour les filles. D'ailleurs, c'est ma couleur préférée.
Ah, c'est la fille qui parle, c'est Chippy. Vient ensuite le deuxième temps, une voix off qui interpelle celui ou celle qui a cet a priori.
Kiki, tu trouverais chouette qu'on te dise quelle couleur tu dois aimer?
Ouah, quelle horreur! Je déteste le jaune.
Non, pour toi, je vois le jaune. Jaune, c'est ta couleur. Jaune, c'est tellement toi.
Au secours, je déteste le jaune. J'ai le droit d'aimer la couleur que je veux.
Et là, les rôles sont inversés. Quelques instants, vous l'entendez, la petite fille et l'enfant en général est confronté au stéréotype qu'il défendait. Il est plongé dans une situation fictive qui doit lui faire prendre conscience de son erreur. Et on revient alors à la situation réelle. C'est le troisième et dernier temps. L'enfant change d'idée et de comportement.
Oh, ouf. Désolée, Wawa. C'est vrai qu'il est chouette, ton t-shirt. Le rose te va très bien.
Merci. Ton ruban aussi est super joli.
Ah, ça. Oh, merci. Tu veux jouer au ballon avec moi?
Ouais!
Ta couleur, c'est celle que tu aimes. Et puis c'est tout.
Fille ou garçon, c'est plus chouette quand on se respecte.
Coralie Boitrel-Lec, je m'adresse à la femme de télévision que vous êtes. Qui a conçu cette structure?
Alors, ce sont 3 auteurs-réalisateurs qui ont l'habitude de travailler pour les très jeunes enfants, qui ont conçu ce projet, qui ont ensuite travaillé à l'écriture et à la mise en scène. Et là, on entend quelque chose de très important, c'est que tout est doublé par des voix d'enfants. Et en fait, tout ce, sauf le narrateur évidemment, ouais, mais tout a été fait pour créer l'empathie, pour toucher les enfants et leurs parents le plus intimement possible. Ouais. Et le but de tout ça, c'est évidemment de créer le dialogue dans les familles.
Voilà. Je regardais si quelqu'un était en rose. Personne n'est en rose sur ce plateau. Vous restez avec nous. On continue à parler de la fin et des moyens de cette très belle opération chouette pas chouette dans Culture Média. Tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de cette opération conjointe avec les 4 grands groupes de télévision, je vais y arriver, TF1, France Télévisions, M6 et Canal+. Ça s'appelle Chouette pas chouette. Ce sont des petits dessins animés de 1 minute 30 à destination des 4-6 ans pour arriver à dépasser les concepts de genre, pour lutter contre le sexisme. Nous sommes avec Coralie Boitrel-Lec. Vous êtes la directrice des programmes jeunesse du groupe M6. Estelle Collat, directrice des grandes causes chez mec.org. C'est vous qui avez institué, lancé, piloté cette opération. Et Damien Giard, directeur du numérique chez Bayer Press. Première fois que je reçois 3 invités, donc le temps de donner vos noms et vos titres. C'est très important, tout aussi important, comment avez-vous choisi les sujets traités? On parlait par exemple du thème de la couleur rose, les autres, et comment ont-ils été choisis ces sujets?
Alors, on a travaillé avec l'association Chaîne de Garde, qui évidemment est un expert terrain, ouais, et qui nous a éveillés sur les sujets. Et on a choisi des thématiques effectivement sur le foot, pilote d'avion, les couleurs, la danse classique, les activités des enfants.
Enfin, le bricolage.
À chaque fois. Comment ?
Le bricolage. Une fille, ça ne va pas bricoler, c'est réservé aux mecs.
Voilà. Ouais. En tout cas, des thématiques sur lesquelles les enfants peuvent s'identifier facilement, qui leur parlent et donc qui créent de la connexion et de l'empathie.
Il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui de la cour de récréation. On voit des filles qui jouent à la marelle et puis tout d'un coup, arrivent 2 garçons avec chacun une raquette de tennis. Ils disent « Poussez-vous, on va faire un tennis au milieu » et les filles se poussent. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que cette pratique, elle est légitimée par les adultes. Vous allez dans les villes, il y a des équipements sportifs, c'est pour tout le monde. Tout le monde paye ses impôts, garçons, hommes comme femmes. Eh bien, vous remarquerez que l'espace public est très, très, très souvent préempté par les garçons. Je parle même pas des rues, je parle juste en bas de chez moi, il y a un terrain de basket. Je n'ai jamais vu des filles jouer au basket sur ce terrain. Je n'ai toujours vu que des hommes. Et c'est beaucoup plus important, vos enjeux sont beaucoup plus importants qu'il n'y paraît.
Il faut qu'effectivement on déconstruise ces préjugés. Et effectivement, la cour de récréation, mais dès le plus jeune âge, c'est les garçons qui prennent l'espace pour jouer au foot et les filles qui sont dans les coins. Voilà. Et ça ne choque personne. Et ça, il faut qu'effectivement les maîtresses, le corps enseignant, tout le monde à un moment se dise il faut se mixer, se mélanger et travailler ensemble.
Et si je puis me permettre, il y a des élus qui nous écoutent, hommes et femmes, qui sont à la tête de villes, de grandes, de petites villes, et qui regardent ce qui se passe dans leur ville. Tout le monde paye des impôts, y compris les femmes. Et l'espace public, pardon de donner mon avis alors que c'est pas mon rôle, l'espace public est pour tout le monde. Damien Giard, le groupe Bayard Press n'a pas de chaîne de télévision. Comment va-t-il diffuser ses dessins animés ?
Alors nous, on a une plateforme numérique qui s'appelle Bayam, et c'est sur cette plateforme qu'on va diffuser les épisodes. Alors on va l'accompagner d'une sélection aussi de contenus aussi qui émanent de nos magazines et de nos livres, qui présentent aussi tout ce qu'on peut avoir autour de l'égalité garçon-fille. Donc on va la diffuser donc sur cette plateforme, en accompagnement avec des newsletters pour les parents, et puis évidemment dans nos magazines, notamment dans Paume d'Api, mais aussi Astrapi, j'aime lire, on aura des relais dans les cahiers parents. C'est vraiment à destination des parents pour que le dialogue se crée dans les écoles, pour les profs. Et ça, c'est vrai que sur la durée, on va aussi travailler cette série. On a un lancement qui se fait là aujourd'hui, mais pour nous, c'est un travail de long cours qu'on travaille depuis des années et qu'on va continuer.
Votre application Bayam, B-A-Y-A-M, c'est payant?
Vous avez une partie gratuite et là, pour le coup, ça sera gratuit. Là, c'est une grande cause.
Donc, d'accord. C'est payant et les dessins animés, chouette, pas chouette, c'est gratuit. Évidemment. Coralie Boitrel-Lègle, sur quelle chaîne vous allez diffuser les dessins animés ?
Alors, c'est sur Gulli. Ouais. Et nous, on a décidé d'être un peu malin dans la programmation, puisque l'ensemble de nos confrères, en tout cas la majorité, diffusent des dessins animés le matin. Mais comme nous, on a l'opportunité de diffuser des dessins animés toute la journée, on lance le programme ce soir à 21h. Et toute la semaine, on aura deux épisodes à 21h. Ensuite, la semaine prochaine, on pourra diffuser au fur et à mesure de la journée et au fil de l'eau les épisodes. Et pourquoi on a fait ça à 21h ? Pour pouvoir donner l'accès aux parents et faire en sorte que parents et enfants puissent voir le programme et en parler ensemble.
Je précise qu'on verra ces dessins animés sur Gulli, mais également sur Tigi, sur Canal J, sur d'autres chaînes évidemment. Il y a un kit pédagogique. Il est destiné à qui le kit pédagogique ? Aux parents, aux enfants, aux enseignants ?
Ce kit pédagogique a été créé avec le CLEMI et en fait il est destiné aux enseignants des classes de maternelle jusqu'à CM2 et voilà, pour qu'effectivement ils s'en imprègnent aussi et qu'ils en parlent dans les écoles.
Une petite question, il y a 16 épisodes, vous allez vite arriver au bout. Comment vous allez les diffuser ?
Eh ben, on va les parsemer dans notre grille de programme au fur et à mesure de la journée pour que chaque spectateur de notre public puisse le rencontrer à un moment ou à un autre. Et puis on s'interdit rien dans la programmation, donc voilà, ce sera au fil de l'eau.
L'idée, c'est peut-être d'en reproduire d'autres dans le futur. Hein.
Ouais, je vais parler du financement. Après, juste un mot sur le kit pédagogique qui va être publié par les journaux du groupe Bayard ou pas du tout ?
Nous, on va diffuser tout ce qu'on peut diffuser, qu'on pourra avoir de mecs. Et on travaille aussi beaucoup avec le CLEMI, donc effectivement, on va essayer de le diffuser au maximum.
Combien coûte une telle opération, Estelle Colas ?
Alors là, c'est une opération dans sa globalité qui est financée par des grandes entreprises comme Fondation Kering, Fondation L'Oréal, Primonial, etc., qui sont derrière l'ensemble de la grande cause et l'ensemble du plan d'action.
Pardon, je vous interromps d'un mot. Vous n'avez pas d'argent public ?
Ah, aucune. Et on ne dépend pas des subventions. Nous, on travaille pour la société civile sur des actions déterminantes et impactantes pour la société civile, avec la société civile. Et puis là, très concrètement, là, ce sont les diffuseurs qui ont payé les dessins animés, qui ont travaillé avec 2 minutes et Gaumont. Ce n'est pas Make qui a directement financé le programme.
Facebook est dans la partie ou pas du tout ?
Alors oui, Facebook a fait partie aussi des financeurs du programme au tout début du programme et a aidé aussi effectivement à contribuer financièrement.
Petite question pour Damien Giard. Au générique, il y a une petite différence entre Bayard et les groupes audiovisuels. Il est écrit en partenariat avec Bayard et avec la participation de M6. Pardon, ici on est une émission média. C'est quoi la différence entre un partenariat et une participation ?
Nous n'avons pas participé au financement de la série. Par contre, on participe à la diffusion. Donc on a loué la série pour pouvoir la diffuser. Mais nous n'avons pas été au tour de table du premier financement.
Eh bien, si je puis me permettre, c'est chouette. Chouette, pas chouette, une série animée pour promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons. Ça commence aujourd'hui, pourvu que ça dure longtemps. Merci à tous les trois. Je rappelle, vous étiez ici en direct dans Culture Média. Coralie Boitrel-Lègle, directrice des programmes jeunesse du groupe M6. Estelle Collat, directrice des grandes causes chez mec.org. Et Damien Giard, vous êtes le directeur du numérique chez Bayard Press. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Dans un instant,
merci.
Avec nous, la directrice de la rédaction du magazine Télérama, Fabienne Pascaud. Elle nous en dira plus sur la 8e édition quelque peu bousculée de leur rendez-vous culturel Télérama Dialogue. C'est déjà la 8e saison, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Fabienne Pascaud.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directrice de la rédaction de Télérama, également vice-présidente du directoire. Première question, comment ça va ?
Ça va bien.
C'est vrai ? Je vous pose la question parce que voici le numéro de Télérama qui vient de sortir ce matin. C'est le numéro 3705. On voit le mot « liberté » qui s'affiche sur l'écran. Et dans votre édito, j'ai fait apparaître ces mots, plutôt les apparaissent, des termes pas franchement réjouissants. Menaces terroristes et sanitaires, terrible spectre de la pandémie, climat liberticide, les pires drames intimes, esclavage. Et vous terminez face aux monstruosités, gardons le courage de dénoncer. Ça reflète le sommaire de ce numéro. Télérama existe depuis 47. C'est la pire année qu'on ait vécue, comme l'annonçait le Time.
Oh, c'est une année horribilis, comme dirait notre reine d'Angleterre. Mais il faut résister, il faut avoir du courage, il faut être ensemble. La société civile retrouve aussi un certain sens du collectif, même si elle est un peu paralysée, sidérée par tout ce qui arrive. Donc, il faut garder l'espoir. Et puis, nous, médias, on est là aussi pour partager, évidemment, dénoncer ce qui ne va pas, comme on a essayé de le faire avec, c'est vrai, cette lente érosion de nos libertés publiques qui, si on n'y prend pas garde, pourrait s'avérer dangereuse, comme le disent la philosophe, le sociologue, la sociologue, l'historien et l'avocat que nous avons, le juriste que nous avons interviewé, mais ils nous disent aussi que nous avons des responsabilités et nous avons des pouvoirs. Si on résiste tous ensemble et si on est en état d'alerte, pourquoi désespérer ?
Allons de l'avant, ne pas se laisser submerger par la pandémie. Votre actualité, c'est la 8e édition de Télérama Dialogue. De quoi s'agit-il à la base avant que vous nous racontiez cette année spécifique et particulière ?
Alors, ce qu'il s'agit au départ, c'est une grande complicité avec le Théâtre du Rond-Point et Jean-Michel Ribes, et l'envie de mettre en valeur la rédaction de Télérama, qui a des goûts, qui a des envies, qui a des désirs, qui aime certains artistes, certains intellectuels, certains écrivains. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire en sorte que la rédaction de Télérama choisisse une quarantaine d'invités et qu'elle les donne à voir, à découvrir aux lecteurs. Parce que nous avons une grande passion, nous, c'est les lecteurs, le partage. On est un journal qui se veut de transmission depuis des années. Hein. Donc ce goût des lecteurs et de partager avec nos lecteurs nos goûts et nos amours, c'était à l'origine de Télérama Dialogue.
Ça a duré 7 ans, ça dure toujours, mais plutôt, je parlais à l'imparfait parce que ça se passait au Théâtre du Rond-Point à Paris, vous l'avez dit, cette année, nouvelle configuration, Télérama Dialogue s'est réinventé, racontez la configuration de cette année.
Alors cette année, ça va être en numérique, parce qu'hélas, pas de public dans les théâtres, donc on n'avait pas envie de mettre nos intellectuels et nos artistes face à des salles vides, qu'il aurait en plus fallu chauffer, ça coûte cher.
J'avais pas pensé à ça.
Donc, avec tout le personnel du Théâtre du Rond-Point, partenaire certes, mais enfin, tout ça c'est de l'argent. Et donc on a décidé dans une seule salle du Rond-Point, deux jours durant, d'interviewer une vingtaine d'artistes, 21 exactement, et on les diffusera chaque jour de la semaine du 18 au 24 janvier à midi, à 18h et à 21h en numérique. Interviewés par les journalistes de Télérama qui les auront choisis parce que c'est le même principe. Alors ce sont les journalistes qui choisissent.
Les invités sont des cinéastes, historiens, comédiens, comédiennes, humoristes, chanteuses, écrivains, plasticiens et des noms très connus. Joanne Sfar, Jean-Noël Jeannet, ancien ministre, Isabelle Autissier, Jean-Michel Jarre, Dominique Blanc, Vanessa Springora, Jérémy Ferrari, l'humoriste, Laetitia Casta ou Alex Lutz, l'autre humoriste, vous l'avez dit, ce sont les journalistes qui ont choisi. Alors parmi la liste des invités, il y a un nom qui m'a vraiment étonné, parce que c'est pas celui d'un représentant ou d'une représentante de la culture, mais c'est Anne-Laure Bonnet. Vous la connaissez ?
Bien sûr.
Elle est journaliste sportive, pas n'importe où, sur la toute nouvelle chaîne Téléfoot, montée par l'Espagnol Mediapro, qui a raflé les droits du foot français pour 1 milliard avant de disparaître et d'abandonner la Ligue 1 et la Ligue 2 en race campagne. Et j'ai demandé à Anne-Laure Bonnet sur quel sujet elle va être interrogée, justement au Théâtre du Rond-Point, pour ses dialogues Télérama.
On parlera de ma carrière, on parlera du sport à la télévision, de la façon dont on le traite, façon qui doit évoluer, qui a déjà un petit peu évolué, mais quand on voit les jeunes qui s'en détournent, on se dit qu'il faut quand même changer quelques petites choses et s'adapter à la nouvelle consommation de la télévision. On parlera des femmes dans une rédaction de sport, voir un petit peu comment c'est, expliquer quelques habitudes qui ne changent pas, et on parlera de l'après téléfoot pour moi, parce qu'il y aura un après. Donc je suis ouverte à toutes les questions d'actualité. Je suis ravie de pouvoir échanger en longueur.
Alors je suis déjà très étonné, donc ça prouve que Télérama s'ouvre, parce que je me souviens avant c'était le football, c'était le mal absolu dans Télérama.
Oui, mais le sport c'est de la culture aussi, hein. Donc même si je ne suis pas moi-même une très grande sportive, je serais plutôt de la lignée Winston Churchill,
ouais,
hein,
no sport. Ouais.
mais encore une fois.
Mais c'est nouveau ça, ce propos-là, c'est nouveau. Tandis que je me souviens que dans les années 80, 90, 2000, Télérama se pinçait le nez à l'évocation du football et des matchs et de la sueur.
Se pinçait le nez peut-être pas, parce qu'il y avait toujours des journalistes qui étaient passionnés par le foot, mais on n'en parlait pas trop.
C'est ce que je voulais dire.
Voilà, mais maintenant, il faut être à l'écoute de sa rédaction. J'ai quelques journalistes qui sont passionnés par le sport, et à force, ils m'ont eu.
Ouais, ouais. Et puis ce foot est passé par là. J'ai demandé à Anne-Laure Bonnet, parce que je parlais du fiasco Mediapro, j'ai demandé à Anne-Laure Bonnet à quel moment justement est arrivée l'invitation, avant ou après le fiasco Mediapro.
Alors, l'invitation, elle est arrivée avant le fiasco Mediapro, donc je tiens mon engagement, j'ai dit oui, et je serai là, évidemment. Mais on parlera sans doute pas de ce qui se passe à Mediapro, parce qu'on a décidé, avec les autres journalistes, avec les membres de la production, de vivre ce moment entre nous. On ne sait pas trop ce qui se passe, très honnêtement, donc on garde ça pour nous. Il viendra le moment de raconter ce qui s'est passé, de raconter ce fiasco et la façon dont on l'a vécu. Mais pour le moment, voilà, on reste entre nous. Je pense qu'on se soutient les uns les autres et c'est très bien comme ça.
Et alors, pour info, Téléfoot va s'arrêter le 31 janvier, mais avec la bombe que vient de lancer Canal+, qui veut un nouvel appel d'offres, Charles Decan l'a dit dans son journal, et remettre à plat tous les contrats, la chaîne risque de durer encore un peu. Alors justement, dans le journal, vous parliez de changement de culture à Télérama. Une surprise, effectivement, page 63, au milieu des programmes télé, il y a un encadré, le sport en direct, je n'en revenais pas. Vous conseillez de la voile, du biathlon, du rugby, du hand, du ski, du golf, du foot, la finale de la Coupe d'Espagne, dis donc, ils sont pointus, vos journalistes, du foot américain, de la NBA.
Et alors, on fait ça depuis longtemps, cher Philippe.
Eh bien écoutez, j'avais jamais vu. Et alors, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y a même du rallye. Il y a le rallye de Monte Carlo, les spéciales 1, 4 et 7. Télérama change son bilan carbone, dites donc.
Ben oui, encore une fois, le sport, c'est des moments, ça peut être des moments de télévision exceptionnels, ça peut être des moments de direct exceptionnels, des moments rassembleurs dans la famille, et ça fait assez longtemps qu'on fait des sélections. On ne met pas toutes les chaînes de sport, ouais, mais cette sélection hebdomadaire nous permet d'être pertinent sur le sujet.
Moi qui suis fan de sport et qui n'avais pas remarqué ça, parce que c'est comme un petit encadré, hein, faut aller le chercher, il est dans un petit bout de la page 63, c'est très très pointu. On va continuer à parler de Télérama Dialogue. Il y a des noms moins connus que les gros noms, je voudrais qu'on en parle, et qu'on parle aussi du journal et de la presse, comment ça se passe aujourd'hui quand on est un hebdo culturel et que la culture toc 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 ferme peu à peu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Fabienne Pascaud, la directrice de la rédaction de Télérama, l'hebdomadaire culturel qui lance son opération, sera la semaine prochaine, la 8e édition, mais cette fois en ligne, de Télérama Dialogue. Ce sont des grands noms ou des noms moins connus qui dialoguent devant le public et devant les journalistes de Télérama. Alors, j'ai cité de grands, grands noms qu'on va entendre, Jean-Michel Jarre, Alex Lutz ou Jérémy Ferrari. Il y a des noms moins connus. Il y a Thomas Lilti, Corinne Peluchon, Océan, Laurent Balesta, Boris Charmaz, François Salachasse, Jean-Jacques Lebel, Olivier Norek. Qui sont-ils ?
Ben écoutez,
vous les connaissez tous ?
Ah oui, je les connais tous. Parce
Thomas
que quand
Lilti.
Même, ben Thomas Lilti, vous savez, il avait fait ce film Hippocrate qui était formidable, qui est devenu une série télé. C'est un médecin qui est devenu cinéaste, réalisateur. C'est un garçon assez exceptionnel. qui a évidemment un point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui. Boris Charmat, c'est un immense chorégraphe qui a été, qui aurait dû être mis en majesté au Festival d'automne, mais qui il va y avoir beaucoup de rediffusions de spectacles qu'il va donner à Chaillot. Corinne Pelluchon, c'est une philosophe qu'on interviewe dans le Télérama de la semaine prochaine, qui s'occupe beaucoup d'environnement et qui nous dit qu'il faut qu'on change notre rapport à l'autre et qu'on imagine l'humain dans toute la continuité avec le vivant en général. Enfin, on a essayé d'harmoniser, puisqu'encore une fois, c'est fort parce que c'est un enjeu rédactionnel. Ouais. La Télérama marche bien parce que j'essaye d'être à l'écoute d'une rédaction qui est à l'écoute du monde. Donc, il y a ce va-et-vient en permanence. Donc, quand les journalistes me disent cette fille-là, ce garçon-là, ils sont formidables, eh bien, on les accepte dans nos rencontres, bien entendu, on fait confiance.
Ça sera du lundi 18 au dimanche 24 janvier à 12h, 18h et 21h. Ça passe quel jour et à quelle heure? Je veux dire, pourquoi je vous pose la question? Parce que je suis allé sur le site telerama.fr, je ne suis pas arrivé à trouver les infos. On a essayé ce matin aussi avec Magali Buteau, on n'a pas trouvé. Il faut être abonné pour voir.
Il faut être abonné.
C'était
parce
le sens de ma question.
Bien sûr, au départ, toutes ces rencontres étaient payantes. Ouais. Vous savez que la survie d'un journal, même sur un site, les abonnés, c'est ce qui va. Les abonnés numériques vont bientôt remplacer sans doute les abonnés papier, même s'ils sont encore très importants à Télérama. Donc, il faut avoir du gratuit et du payant. Et là, ça sera réservé à nos abonnés parce qu'on faisait payer les places. Hein, au rond-point à l'époque pour assister à ces rencontres.
On arrive à ce sujet. Combien d'abonnés et comment va Télérama ?
Télérama va bien. J'ai un peu honte de le dire parce que c'est vrai que la situation de la presse est difficile, mais on est dans un groupe, le groupe Le Monde, qui marche très bien. Les abonnements numériques du Monde font envie à tout le monde.
Dépasse toutes les espérances, y compris les espérances des gens du Monde eux-mêmes.
Exactement. Alors nous, on a quand même, en papier, on reste quand même à 420 000 abonnés, hein, ce qui est quand même énorme.
420 000 abonnés. La vente au numéro, c'est Picrocolin.
La vente au numéro, c'est quand même 43 000 encore, ce qui est beaucoup plus que tous nos confrères hebdo.
Ouais.
En diffusion globale, on doit être à 480 000 et on est à 23 000 abonnés numériques.
Vous êtes même à 485 000.
Ah, bah vous
j'ai regardé ce matin.
Je suis modeste.
Dans quelle mesure vous avez été impacté par la crise de Prestalis, je le rappelle, qui était l'organisme et qui a disparu depuis et qui distribuait les journaux?
Ah ben, on a été impacté pendant 2-3 mois parce qu'on n'était plus en kiosque. Hein, mais bon, là,
juste vos 40 000 sur vos 480 000.
Exactement.
Vous avez perdu de l'argent ?
Écoutez, globalement, là oui, Prestalis, on a perdu en gros 1,5 million d'euros, je pense. Mais globalement, c'est terrible à dire, mais on a fait des restrictions de pagination, puisque forcément, il y a des tas de secteurs qu'on couvrait qui n'existent plus. Le cinéma, les musées, les expos et les sujets magazines qui allaient avec. Donc, comme nos lecteurs ont eu la générosité de nous suivre et de continuer à nous acheter malgré la perte de pagination... Bah finalement, ça a compensé et on a pu survivre.
Juste un mot, coïncidence de l'actualité, Rideau Noir, c'est un
roman
de vous qui sort aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Chez Stock. J'ai pas le temps de le lire, on me l'a donné, je suis très content qu'il sorte. Juste question, comment ça se passe à une PASCO quand vous publiez un livre? Vous donnez ordre qu'on en parle dans Télérama, vous donnez ordre qu'on n'en parle pas.
Vous plaisantez.
Ou alors, s'ils en parlent, il faut mentionner, comme à l'Obs ou au Canard Enchaîné, que ça vient de quelqu'un de Télérama.
Je donne ordre quant à moi. Je donne ordre qu'on n'en parle pas. On parle jamais des journaux, des livres que font nos rédacteurs et Dieu sait qu'ils en font tous. Simplement, il y a une petite publicité qui leur est accordée pour dire qu'il ne faut pas quand même qu'ils soient victimes, que leur livre paraît. Mais on n'en parle pas, non.
Juste un mot sur vous. Vous êtes cas unique. Vous êtes entrée à Télérama en 80 comme critique cinéma. Vous êtes devenue directrice de la rédaction en 2006. En 2008, vice-présidente du directoire. Vous n'avez jamais eu envie d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Vous me faites penser à Messi, l'homme d'un seul club. Vous n'avez pas bougé du Barça?
Ben vous savez, j'ai été à la fondation de Arte, qui s'appelait La 7 à l'époque. Hein, donc ça m'a permis de partir un an. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de télé. J'ai même été à Europe. Ça m'a permis de m'aérer et j'ai la passion de Télérama. Donc, c'est comme une histoire d'amour. On veut qu'elle dure toujours.
Merci beaucoup. On va rester sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Fabienne Pascaud. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On recevra Eva Rock, on recevra Bertrand Chamerois. Notre invité, c'est Alix Poisson pour une fiction sur France 2, Disparition inquiétante et apparition non inquiétante, Hélène Manarino. Et puis dans Les Indispensables, Eric Clapton et des enfants très altruistes. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.